Seigneur, on met cette réunion entre tes mains, c'est parce que ce qu'on désire vraiment, c'est d'entendre ce que tu as à nous dire. On veut, Seigneur, ouvrir nos cœurs pour être réceptifs, pour recevoir et change nos vies, Seigneur. Transforme-nous. On veut devenir comme Jésus. Je te remercie de l'œuvre que tu fais présentement au milieu de nous, de parler à nos cœurs par tes prophéties, par des paroles ou par les chants. Seigneur, continue ton œuvre ce matin. Dans le nom de Jésus qu'on remet ça. Amen. Alléluia. Au début de mon message, je vais commencer à vous introduire avec un mensonge qui est entré dans le monde. C'est une illusion que séduit l'humanité. Et je veux vous parler comment est-ce que Dieu a répondu à cela. Je vais vous parler de la plus grande convoitise qui existe depuis le commencement de la création. Ça, c'est l'introduction. Mais après ça, on va rentrer dans qu'est-ce que Dieu lui a dit. Cette séduction-là a commencé avec Adam et Ève pour leur faire croire que s'ils mangeaient du fruit défendu, ils deviendraient comme Dieu. Le premier passage pour nous introduire là-dedans, dans Genèse 3, au chapitre 3, le verset 1. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, puis il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Mais la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand qu'au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Là, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, puis en mangea, puis en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, puis connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » On va s'arrêter là. Là, je vous parle de la plus grande convoitise qui a commencé à rentrer dans le monde depuis le début de la création. Ça a été démarré avec une suggestion mensongère qui était donnée par l'ennemi, le diable, qui est venu sur la forme d'un animal, puis a parlé à Ève, puis a séduit Ève et Adam pour qu'ils désobéissent à Dieu. Dieu leur avait dit, « Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Le diable est arrivé avec un mensonge et a dit, « Vous ne mourrez point. » Dieu savait ce qui s'était pu se passer s'il mangeait de cet arbre, le fruit qui poussait de cet arbre-là. Il savait que leurs yeux s'ouvriraient. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils savaient que leur intelligence s'ouvrirait, qu'ils commenceraient à comprendre ce qui était le plan, les choses bien, les choses mal, puis commençaient à prendre leurs propres décisions pour pouvoir choisir ce qui est bien, ce qui est mal, et que cela, ça leur a même entraîné de pouvoir se sentir être capable de décider eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. L'ennemi le savait aussi, mais il les a menti. La Bible nous dit qu'Adam et Ève, à cause qu'ils ont mangé de ce fruit-là, leur connaissance s'est ouverte, mais ils ont été séparés de la présence de Dieu. Parce que le mot « mort » signifie « séparation ». Ils ont été séparés de la présence de Dieu, ils ont perdu toutes les promesses de Dieu, puis ils ont été rejetés du jardin que Dieu avait créé pour eux autres. Cette convoitise-là qui a commencé depuis le début de la création, elle demeure encore aujourd'hui. Devenir comme Dieu, c'est la plus grande convoitise qui ne peut pas exister. Parce que c'est ça que le diable a fait miroiter. Tu vas devenir comme Dieu. Tu vas être capable de discerner les choses. Tu vas être capable de choisir ta vie, de faire ce que tu veux. Et tout le long de l'histoire, l'homme s'est créé des contes, des légendes, des mythologies. Il a toujours fait miroiter qu'il y a une existence d'hommes qui sont Dieu. comme la mythologie grecque. C'est des hommes, Dieu. Et aujourd'hui, les sectes, ils essayent de faire illusionner que les gens sont Dieu. Le Nouvel Âge, il enseigne que la nature est Dieu, que l'homme est Dieu, que l'homme communique la nature, que l'homme est Dieu. Cette pensée-là est rentrée dans le monde, puis amène l'humanité, que les humains sont Dieu. Même il y a des églises où ce que le haut placé se pense le Saint-Père, se pense Dieu sur la terre. C'est peut-être drôle, mais ça fait partie de la continuité de ce mensonge-là, de cette convoitise-là d'être comme Dieu. Ils pensent qu'ils sont arrivés à être comme Dieu. Il ne faut pas se tromper, l'homme n'a rien de divin. Même les rois de la terre, les grands rois, ceux qui ont dominé sur pas juste un petit territoire, qui ont dominé sur de grands royaumes, avaient cette influence-là, cette pensée-là qu'ils étaient Dieu sur la terre. Dans Ézéchiel, au chapitre 28, le verset Dieu, verset 2, excusez. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ça c'est un roi sur la terre. Dieu est en train de parler à Ézéchiel, c'est un prophète. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, ton Dieu s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Cet homme-là, le prince de Tyr, il dit, je suis Dieu, je suis assis au siège de Dieu, au sein des mers. Puis Dieu lui dit, toi, tu es homme et non Dieu. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Les hommes ont cette tendance à s'emporter quand ils rentrent dans des titres honorifiques ou élevés au-dessus des autres, à sentir qu'ils sont Dieu. Ils prennent leur pensée comme étant la pensée de Dieu. Savez-vous que dans notre état humain, il n'y a même pas de quoi à plaire à Dieu? Dans Romains 8:8, ça nous dit, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Encore moins d'être Dieu. Ces gens-là, s'enflant d'orgueil, ils se pensent qu'ils sont Dieu. Toute la sagesse que l'homme peut avoir n'est folie que devant Dieu. Dans 1 Corinthiens 1:20, ça nous dit, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Les hommes s'enflent d'orgueil. Il y en a qui atteignent des niveaux de connaissance beaucoup plus élevés que d'autres, des niveaux de sagesse beaucoup plus élevés que d'autres. Il dit, même avec tout cela, ils sont encore rien devant Dieu. Dieu appelle ça de la folie. Plus que l'homme cherche à s'élever, plus bas que Dieu va l'abaisser. Dans Luc 14, 11, il dit, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Tout cela peut pour en arriver que devant Dieu, l'orgueil humain n'est rien du tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont rejeté Dieu ou l'idée de se faire égal avec Dieu, mais ils agissent comme s'ils étaient Dieu en reconnaissant pas qu'ils ont besoin de Dieu. Des fois, les gens, ils pensent pas qu'ils sont Dieu, ils ne confessent pas, mais ils agissent comme s'ils seraient eux-mêmes. Parce qu'ils ne recherchent pas à savoir qu'est-ce que Dieu a dit de faire. Puis ils décident eux-mêmes de faire ce qu'ils veulent, même s'ils ne l'avouent pas qu'ils se pensent Dieu. Dans leur pratique de tous les jours, ils démontrent qu'ils sont autosuffisants, puis que leur volonté, leur discernement du bien et du mal est suffisante et qu'ils sont comme Dieu. Ils ne veulent pas le savoir qu'est-ce que Dieu pense sur une chose. Ils ne veulent pas le savoir si Dieu a approuvé une chose ou s'il l'a rejetée. Ils décident eux-mêmes. Puis par là, ils démontrent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, puis ils démontrent qu'ils sont leur propre Dieu. Ils vivent indépendants de Dieu sans se soucier de ce que Dieu veut leur dire. Et croyez-moi, tous ceux que la Bible a dit qu'un jour Jésus va revenir, et tous ceux qui se sont rebellés contre la connaissance de Dieu, contre la volonté de Dieu, contre le plan de Dieu, ne peuvent pas rentrer. Leur rébellion, leur état de marcher en dehors de la recherche du plan de Dieu démontre qu'ils ne sont pas intéressés à reconnaître Dieu et qu'ils sont eux-mêmes Dieu pour leur vie. D'autres personnes, sans qu'ils se pensent Dieu, ils pensent qu'ils font partie de la famille de Dieu. Ils pensent qu'ils sont des fils et des filles de Dieu par naissance, à cause de leur père ou à cause de leur religion. Dans Jean 8, le verset 37 à 44, Jésus parle à des gens qui sont juifs, que par nature, il était fils d'Abraham, par descendance, héritier des promesses, puis que ces gens-là pensaient faire partie de la famille de Dieu. Puis Jésus leur répond, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Puis lui répondit, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a point fait. « Vous faites les œuvres de votre père. » Et lui disent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. » Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il y a des gens qui pensent qu'à cause qu'ils sont descendants d'un tel ou d'un tel, qui sont fils d'un tel ou d'un tel, ou qui font partie de telle peuplade, même si c'est un peuple, l'Israël était un peuple qui était choisi de Dieu, ces gens-là étaient choisis pour être ses enfants, mais tous d'Israël n'étaient pas ses enfants. Et Jésus dit, c'est pas à cause que vous avez pour père un tel, ou que vous êtes de telle tribu, que vous êtes enfants de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, si vous gardez ma parole, là vous allez être enfants de Dieu, mais pas là de ça, vous n'êtes pas enfants de Dieu. On ne vient pas au monde enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas ses enfants. On ne devient pas enfant de Dieu par naissance. Une seule personne sur la terre était vraiment Dieu puis portait le nom de Fils de Dieu. Son nom, c'est Jésus. Dans Matthieu 1, 23, il y avait une promesse qui était dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans Jean 1, le verset 1 à 4, ça dit, au commencement était la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Puis au verset 14, dans le même passage, ça dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, puis nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quand il nous dit, au commencement était la parole, puis la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, il dit, et la parole a été faite chair. C'était Jésus. C'est le seul qui était le Fils unique de Dieu. Il n'y avait pas d'autre. Lui était fils unique par naissance. Oui, parce qu'il n'est pas né de Joseph, il est né du Saint-Esprit. C'était le seul qui pouvait se dire par naissance qu'il était fils de Dieu. Mais la Bible nous dit encore plus loin qu'il n'était pas juste fils de Dieu, c'était le titre de fils de Dieu parce qu'il avait été engendré par le Saint-Esprit. Mais que c'était Dieu, puis que toutes choses ont été créées par lui. C'est lui qui est le créateur de toutes choses, puis rien de ce qui a été créé n'a été fait sans Jésus. Jésus, celui qui a commandé les choses, puis les choses se sont accomplies. C'est le Verbe, la parole, celui qui commande les choses et qu'elles sont. Dieu le Père, lui, il a dans son plan décidé les choses, mais la Bible nous dit que le Logos, c'est la parole, c'est celui qui a commandé les choses et que les choses ont été faites. Puis rien de ce qui a été fait, de ce qu'on voit, n'a été fait sans lui. C'était le seul qui pouvait dire, « Je suis Dieu. » Mais la Bible nous dit qu'il n'a point recherché comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, qui a paru comme un simple homme, puis s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas recherché à s'élever. C'est sûr que dans ses explications, il fallait qu'il explique qui était. Mais ce n'était pas quelque chose qu'il recherchait, dans le sens, je suis Dieu, puis j'allais faire ce que... Non. Il a choisi le chemin de l'humilité, de paraître comme un simple homme, puis de dire son message, puis que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais la parole de Dieu demeurait. La séduction du début de la création demeurait. Ceux qui voulaient encore croire qu'ils étaient Dieu, ils font fausse route. Jésus a dit que celui qui me voit a vu le Père. Dans Jean 14, 9, 10, il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus reconnaissait que le Père est en lui par le Saint-Esprit, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Le Père est en lui par le Saint-Esprit, et qu'il ne parlait pas de lui-même, mais quand il disait quoi, c'était le Saint-Esprit ou le Père qui lui disait les paroles qu'il devait dire, puis il les annonçait. Puis les œuvres de puissance qui se manifestaient, c'est le Père qui le dirigeait dans ces œuvres-là et qui faisait les guérisons et les délivrances. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que quand tu regardais Jésus, tu ne voyais pas l'homme, mais tu voyais aussi que dans Colossiens 1,15, ça dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Quand tu regardais Jésus, tu voyais le caractère, la pensée de Dieu le Père. Mais aucun homme sur la terre n'a ce mérite-là de se penser Dieu. C'était seulement Jésus qui pouvait l'être. Maintenant, je vais vous parler d'une nouvelle race que Dieu a créée. La race des réels enfants de Dieu. 2 Pierre 2, verset 9-10, il nous dit, « Vous, au contraire, ça parle aux chrétiens. » À ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il y a une race qui découle d'une élection. Une acquisition que le Créateur a choisie. Et quand on parle d'élection, pour nous aider à comprendre comment que ça marche, on peut regarder comment est-ce que le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada est élu. Il y a des critères qui doivent rentrer, et après ça, c'est le peuple choisit la personne qui a les critères pour rentrer. Mais aujourd'hui, pour l'élection que Dieu a faite, pour se choisir un peuple qui lui appartient, Dieu veut donner à des gens le titre d'enfant de Dieu, puis c'est une chose gratuite qu'on reçoit, mais il y a des critères dans lesquels on doit rentrer afin de devenir enfant de Dieu. Ces critères-là ne sont pas à cause que vous êtes né d'un père ou d'une mère chrétienne, ou que vous êtes né dans un peuple comme le peuple d'Israël, ça n'a aucun rapport, ou que vous faites partie de telle et telle religion, ça ne fait pas partie de ces critères. Devenir semblable à Dieu est une chose possible aujourd'hui. Pas en nous-mêmes, mais par l'action de Dieu lui-même. Il s'est promis dans sa parole. Dans 2 Pierre 1,4, ça nous dit, « Lesquels il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » La promesse qu'on retrouve, c'est qu'on peut devenir participant de la nature divine. Il y a des gens qui, depuis le début de la création, cherchent à se dire qu'ils sont Dieu dans leur propre chair. Et Dieu ne dit pas de même, ça marche. Il dit, je vais mettre un plan, je vais mettre des critères d'élection, puis je vais acquérir un peuple en payant tout ce qu'il faut pour qu'il puisse rentrer librement dans ma famille, puis je vais les faire rendre participants de ma nature. Ça vous intéresse-tu? Mais quelque part, il faut recevoir cette nouvelle nature, c'est la première étape pour devenir un enfant de Dieu. Tu viens pas au monde avec cette nature. Cette nature-là se reçoit à un moment donné dans ta vie, un moment précis. Dans Jean 1, verset 9 à 13, il dit « Cette lumière, en parlant de Jésus, est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, puis le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, puis les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, en parlant de cette lumière, en parlant de Jésus, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Dans ce passage-là, on retrouve qu'on peut devenir être titré par Dieu, qu'on est son enfant. Ça vient pas à cause du sang, ça vient pas à cause, comme je disais tout à l'heure, que ça vient de père en fils, que tu as ça dans le sang, que tu es un enfant de Dieu. Ça vient pas à cause que la volonté de ta chair qui décide de se proclamer Dieu, qui décide de s'élever au-dessus des autres, puis à t'enfler d'orgueil puis de penser que tu es Dieu. Ça décide pas, c'est pas à cause de ta religion que tu as choisi qui fait de toi que tu es un enfant de Dieu. Mais ça nous parle que c'est à cause de ceux qui l'ont reçu. C'est à quelque part dans ta vie, il faut que tu reçoives quelque chose qui va faire de toi un enfant de Dieu. C'est à quelque chose-là que tu dois recevoir. C'est la lumière de Dieu. Cette lumière s'appelle Jésus. Quand que nous le recevons, nous commençons une nouvelle manière de vivre. 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature. » Puis les choses anciennes sont passées, voici que toute chose est devenue nouvelle. À partir du moment que tu reçois Jésus dans ta vie, tout ce qui était de ton passé, c'est passé. Puis là, dans ta vie, commence une nouvelle vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des changements, il y a des transformations dans ta vie. Tu vas t'en apercevoir. Les gens autour vont s'en apercevoir. Que tu es différent, parce que tu es rentré dans la famille de Dieu, puis tu as reçu quelque chose qui change ta vie, puis tu as quelque chose-là, c'est Jésus. Le recevoir, c'est comme un acompte pour dire qu'on lui appartient. Dans Éphésiens 1, 13, 14, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, ça c'est en Jésus, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Quand tu reçois Jésus, il y a un sceau qui s'étend sur toi, paf, propriété privée de Dieu. C'est mon enfant, fils de Dieu, fille de Dieu, ma bien-aimée, ma future épouse. On est scellé par le Saint-Esprit. Il y a un sceau, un étampe, comme quoi qu'on appartient à Dieu, qu'on fait partie de sa famille. À partir du moment qu'on l'a reçu. Puis tout ça, le recevoir, ce sceau-là, ça nous dit au verset 14, lequel c'est un gage de notre héritage. C'est un acompte. Quand tu vas acheter quelque chose, puis tu laisses un acompte au gars, tu dis, ça coûte 100$, mais je te laisse un 20 d'acompte. T'as un acompte, t'as un gage que t'as déposé comme quoi que ce bien-là va t'appartenir, il t'appartient parce que tu mets un acompte dessus, puis le paiement s'en vient. Puis un jour, ça va être complètement pris que ça lui appartient, mais il y a un délai entre l'acompte et le jour où on va être rendu l'autre bord. Mais être scellé du Saint-Esprit, recevoir son sceau, c'est un acompte comme quoi qu'on appartient à Jésus, qu'on appartient au Père. Et c'est un gage de notre héritage, de tout ce que Dieu a à nous donner, c'est un acompte pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand on reçoit ce sceau-là, lorsqu'on reçoit Jésus, c'est un acompte comme quoi Dieu nous a acquis, que maintenant on appartient à Dieu, c'est propriété privée de Dieu à partir du moment que tu donnes ta vie au Seigneur. On ne fait plus partie de ce monde. On fait partie du monde céleste, on fait partie de la famille de Dieu. Le recevoir, ça nous donne la garantie que nous possédons la vie éternelle. En 1 Jean 5, 11-12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas non plus la vie. Que les gens ne s'imaginent pas qu'ils vont rentrer au ciel sans passer par Jésus. Tu peux pas être sauvé, tu peux pas aller au ciel, tu peux pas te penser même que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas reçu Jésus. Si dans ton cœur tu dis « Ah, ben moi j'aimerais ça rentrer dans la vie éternelle », mais dis, il faut que tu reçoives le sceau. Et pour recevoir ce sceau-là, comme quoi tu appartiens à Dieu, comme quoi tu as la vie éternelle, il faut que tu reçoives Jésus dans ta vie. Il n'y a pas d'autre moyen de rentrer. Jésus dit « Je suis le chemin ». La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul, ça comprend. Mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes amis, mes compatriotes, mes voisins et même moi-même. Je ne peux pas rentrer dans la vie éternelle que par Jésus. Dieu ne fait pas d'exception. C'est pas à cause que je m'appelle Daniel Poulain que je vais rentrer au ciel. C'est à cause que j'ai rentré des critères d'élection. Dieu nous a élus, il nous a choisis, il nous a acquis, parce qu'on a rentré des critères. Puis ce critère-là, il faut que tu mettes ta foi en Jésus, il faut que tu reçoives Jésus dans ta vie. C'est à quelque part dans ta vie que tu décèdes de cette décision-là et que tu le reçois, et que tu reçois ce sceau-là, que tu reçois la vie éternelle, puis que tu fais partie de sa famille. Puis sans ce sceau-là, sans ce... Ce point-là accompli dans ta vie, tu ne rentres pas, tu ne fais pas partie de la gang, tu ne fais pas partie de sa famille, tu t'appartiens pas à Dieu, puis tu n'as pas la vie éternelle. Mais pour commencer cette nouvelle vie, Jésus dit qu'il faut naître de nouveau. Dans Jean 3, 3 à 8, il dit, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que, t'es dit, que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, mais il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Cette nouvelle naissance-là que Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de l'Esprit. Il faut que le vent de l'Esprit te visite, il faut qu'il rentre en toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Créateur, ça se reçoit quand on reçoit Jésus. La nouvelle nature qu'on reçoit quand on donne notre vie au Seigneur, c'est pas juste une force, c'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Parce que si ça serait juste une force, on essaierait autant que possible à saisir cette force-là. Mais vu que c'est une personne, il faut chercher à se laisser saisir par lui. Il faut le laisser prendre la place, il faut le laisser rentrer, puis lui, il va nous diriger. Dans Jean 14, verset 16-17, il dit, « Et moi, je prierai le Père, c'est Jésus qui parle, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et qu'il ne connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus a promis de donner le Saint-Esprit. Il a donné cette promesse-là à ses disciples. Je vais prier le Père, puis il va vous le donner, l'Esprit Saint. Il va être éternellement avec vous. Puis c'est lui qui va vous diriger, puis il va vous conduire. Vous allez le connaître. Le monde ne connaît pas parce qu'il ne voit pas. Sans l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Dans Romains 8, 9, ça dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Avez-vous déjà fait le point dans votre vie, « Est-ce que je l'ai reçu, Saint-Esprit? » Parce que la Bible nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Entendez-vous sa voix, ses directions, ses conseils, ou le sentir même quand il est attristé, quand on vit tout croche? Le sentons-nous nous pousser à nous amener à se repentir quand on fait de quoi de pas correct? Avez-vous des preuves que l'Esprit est en vous? Il a rentré, la Bible nous dit, quelqu'un qui croit en Jésus puis qui le reçoit à Jésus comme son sauveur personnel. Dieu pardonne ses péchés, puis tu peux lui demander le Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie. Tu vas recevoir une nouvelle nature. Cette nouvelle nature-là, c'est quelque chose de différent que ta nature humaine que tu as en toi déjà. Cette nouvelle nature-là va t'amener à vivre des choses qui font partie de cette nouvelle nature. Ça se peut pas qu'il vous aille pas parlé. Ça se peut pas qu'il vous aille pas rien dit. Ça se peut pas qu'il vous aille pas montré autre chose que qu'est-ce que vous êtes habitué de vivre dans la chair. Si c'est ce que vous vivez, que vous avez jamais entendu rien d'autre, je vous conseille à partir d'aujourd'hui de mettre votre vie en règle avec Dieu et de demander le Saint-Esprit afin que cette nouvelle nature que vous allez recevoir va changer vos vies, va les transformer et va les rendre à son image. L'Esprit de Dieu a ressuscité notre esprit en pénétrant en nous, puis il veut nous communiquer la vie dans notre corps mortel. En Romains 8, le verset 10-11, il dit, « Ici, Christ est en vous. Le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Notre corps, quand on a tombé dans le péché, il est mort devant le Seigneur. C'est vrai. Mais quand on a ouvert notre cœur pour recevoir le Saint-Esprit, notre esprit est rendu vivant, il est ressuscité. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dieu veut vous communiquer la vie, pas juste présentement, mais aussi la vie éternelle. Mais il veut le faire aussi présentement, vous communiquer sa vie. Cette vie qui vient de cette nouvelle nature, qui va changer votre vie. Vous n'avez pas à marcher selon votre chair, puis à subir les effets de votre chair, puis les tristesses de votre chair, puis les peines de votre chair, puis les fardeaux de votre chair, puis les convoitises de votre chair, puis les passions de votre chair, les désirs de votre chair. Vous n'avez pas à suivre ça. Si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, en vous habite une nouvelle nature, qui est la nature de Dieu. C'est une nouvelle vie complète. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles par la puissance du Saint-Esprit qui habite en vous. Il dit, votre esprit est ressuscité, vous commencez à comprendre des choses nouvelles, mais il veut faire un œuvre de communiquer la vie à votre corps mortel. Il veut faire mourir des choses, puis il veut en produire de nouvelles qui viennent de lui. Il prend le contrôle de tout ce qu'on lui donne pour le faire mourir. En Romains 8, le verset 13-14, il dit, « Si vous vivez selon la chair, » ça parle à des chrétiens encore, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous êtes dans un corps de mort. Vous êtes dans un corps qui dépérit, qui est entraîné par le péché, qui est entraîné vers une destruction. Si vous vivez selon votre chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu veux être un fils ou une fille de Dieu, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais pas juste ça, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Il faut que tu apprennes à écouter sa voix, sa direction, ses instructions, et que tu assujettisses ta vie à sa pensée, à lui. Tu vas vivre des choses nouvelles, ta vie ne sera plus pareille, tu ne te reconnaîtras plus, puis les gens non plus ne te reconnaîtront plus. Tu vas avoir une force que les gens n'ont pas, ils vont dire, il y a vraiment quelque chose de spécial en toi. Comment tu fais pour réagir comme ça dans telle et telle situation? C'est bien simple, je ne vis pas charnellement, je vis selon la nouvelle nature que j'ai reçue en Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui produit les choses. Merci Seigneur. Recevoir cette nouvelle nature, ce n'est pas un accessoire de la vie qu'on met sur les tablettes et qu'on utilise quand on a de besoin. Parce qu'on peut l'avoir reçu, le Saint-Esprit, puis le laisser ses tablettes. Puis on dit, oh, mais mec, ça me tente, je t'écouterai. En attendant, ça me tente pas d'entendre ce que t'en dis. Ça me tente pas de marcher dans la voie que tu me dis. Ça me tente pas de recevoir ce que t'as à me communiquer pour bénir les autres. Ça me tente pas d'être obligé de payer le prix, de mourir à moi-même, puis de commencer à suivre ce que t'as dit. Non, c'est pas le même. Quand t'es en Jésus, c'est le contraire. Tu as découvert quelque chose de précieux, une nouvelle nature, la nature divine qui vient en toi, que tu peux réagir différemment, puis que lui, il veut te conduire. Tu laisses pas ça ses tablettes. C'est ta vieille vie que tu laisses ses tablettes, que tu fais mourir. Tu dis, moi, je veux plus vivre selon ma chair, je veux vivre selon le Saint-Esprit. Parce que je sais que ceux qui vivent par le Saint-Esprit vivent des choses incroyables. Qu'est-ce que vous avez vu quand Jésus a vécu sur la terre? Qu'est-ce que vous avez vu dans la parole de ce que les apôtres ont vécu? Ça fait partie de la vie de l'Esprit, de ceux qui marchent par le Saint-Esprit, de ceux qui ont appris à crucifier leur chair avec leurs passions et leurs désirs, qui ont décidé de se soumettre à la volonté de Dieu, qui ont décidé de vivre la vie de Dieu, qui ont cru qu'il y avait quelque chose de plus grand en Dieu quand tu le reçois que qu'est-ce que tu peux vivre dans la routine charnelle de ta vie charnelle, de tes forces personnelles. Fait que cette nouvelle nature-là, c'est pas un accessoire de la vie qu'on peut prendre comme les multitudes d'accessoires qu'on a aujourd'hui dans notre maison. On a besoin d'un toaster. De temps en temps, on met deux toasts dedans, on fait griller nos toasts. Après ça, quand on les a eus, nos toasts, on s'en occupe plus. C'est un accessoire qui est là, rien que quand ça me tente. Mais le Saint-Esprit, c'est pas juste quand ça me tente, puis quand c'est que j'en aurai besoin. C'est pas juste quand ça va mal. C'est toute ta vie qui veut, en tout temps, à toutes les minutes de la journée, qui veut être avec toi et te diriger. Nous devons remettre toutes les parties de notre vie au Saint-Esprit. Dieu partage de sa nature afin qu'on manifeste le caractère et la conduite de Jésus dans notre vie. Êtes-vous rendu comme Jésus? Mais vous avez en vous ce qui peut vous rendre comme Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et si vous êtes prête à payer le prix, puis à dire, prends ma vie, et je veux le devenir comme Jésus, vous ne chômerez pas, votre vie va être changée, transformée par sa puissance. Mais il y a encore des manières pour arriver à cela. Je vais en parler un petit peu plus loin. La transformation de notre vie, pour qu'on devienne à l'image de Jésus, à la stature de Christ, c'est produit par le dépouillement de notre vieille nature et le revêtement de la nouvelle. Il faut se dépouiller de quelque chose puis se revêtir de quelque chose. Ça se fait pas tout seul. Ça sera bien, bien facile, ça sera plaisant de dire, je donne ma vie au Seigneur puis tout se fait tout seul. Pour aucun effort, pour aucune pensée, pour aucune prière n'est nécessaire, tout se ferait tout seul, ça serait gloire à Dieu, merci Seigneur, mais Dieu a pu le faire comme ça. Mais il a choisi d'utiliser notre volonté, notre désir de le vouloir. En Éphésiens 4, les versets 20 à 25, ça nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Ici, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, puis à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et au verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncer. Là, il nomme des choses à laquelle on doit renoncer. Dieu sert de notre participation pour nous transformer à son image. Dans sa parole, il y a plein d'encouragements, des exhortations, des ordres qu'il nous dit, comme on vient de le lire, il faut être dépouillé, il faut apprendre à se dépouiller. Il dit, si en Jésus, vous avez été instruit à vous dépouiller, parce que en Jésus, le vrai évangile, en Jésus, tu dois te dépouiller. Ça fait partie du plan d'élection que Dieu a décidé de faire. Tu veux marcher par l'Esprit? Tu n'as pas le choix, faut que tu te dépouilles. Ça, c'est le verset 22 du verset qu'on vient d'aller. Puis si on lit les autres passages qui nous dit plein d'exhortations, puis des ordres, puis des conseils, puis ça nous dit à d'autres passages qui dit rejetez certaines choses, repentez-vous de certaines choses, refusez certaines choses, renoncez à d'autres choses, résistez à d'autres choses, détournez-vous de d'autres choses, liez certaines choses, dénoncez d'autres choses, fuyez d'autres choses. Ça fait partie de l'œuvre que je dois être participant pour que Dieu enlève cette vieille nature. Pour que je sois dépouillé, il faut que je sois prêt à racheter, à me repentir, à refuser, à renoncer, à résister, à me détourner, à lier, à dénoncer, à fuir le mal, le péché puis notre vieille nature. Si on n'a pas cette attitude-là, on ne peut pas être capable de se revêtir de la nouvelle. Il faut qu'on soit prêt à tout lâcher. Puis quand arrive la situation, c'est de la rejeter, de la résister, de la refuser, de la lier, de la repousser, de la fuir. Tout ce qui vient d'œuvre de notre nature humaine, tout ce qui vient d'œuvre de la convoitise du monde, ou tout ce qui vient des suggestions directes de l'ennemi. Il faut tout rejeter. Puis l'œuvre de transformation, elle va se faire quand tu vas faire cette partie-là et le verset 24, et à revêtir l'homme nouveau. C'est quelque chose qu'il faut que tu prennes, que tu saisisses, que tu demandes, que tu recherches, que tu aspires. Ça, il y a d'autres passages qui disent, il faut se convertir, il faut revenir à Dieu, il faut prendre ce qui est présenté, il faut aspirer. Il faut courir, il faut désirer, il faut recevoir, il faut saisir tout ce qui vient de Dieu. On veut être transformé. Chaque fois qu'on est en face d'une révélation que Dieu nous parle dans notre esprit, quand on entend la parole de Dieu, que ce soit en lisant la parole de Dieu, ou quand quelqu'un prêche la parole de Dieu, ou quand quelqu'un vient nous dire un conseil, chaque fois qu'on est face à une lumière, à une vérité qu'on comprend, pour changer quelque chose dans notre vie, là, faut qu'on l'accepte, cette vérité-là. Faut que je confesse à Dieu que je rejette le mensonge dans lequel je vivais. Faut que je le confesse à Dieu. Puis je lui demande de produire en nous cette vérité-là. Je me revais de cette vérité. Je l'accepte et je veux la vivre. Puis ça va se faire par la nouvelle nature que tu as reçue. C'est le plan de transformation que Dieu a dit qu'il fallait que tu passes si tu veux être changé. Si tu te repens jamais de rien, puis chaque fois que tu entends une vérité, tu y penses là, puis tu vas dire, « Oh oui, c'est vrai, puis après ça, 10 minutes après, tu l'as pas saisi, cette vérité-là, tu l'oublies, puis tu n'as pas passé l'étape, tu es encore dans la même situation que tu étais selon ta chair ou selon un mensonge de l'ennemi ou un mensonge du monde. » Les enfants de Dieu, s'ils veulent marcher, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous commenciez à vous dépouiller. Il faut que vous commenciez à rejeter des choses, puis à prendre. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que tu décides. C'est toi qui décides de faire mourir ton vieil homme par l'esprit, de faire mourir les actions du corps, puis de vouloir d'être revêtu de cet homme nouveau-là. Vous entendez plein des prêches qui vous dit, quand t'es en Jésus, t'as une position, puis c'est ça, puis il devrait se passer ça, puis il devrait se passer ça, puis il devrait se passer ça. Ça, c'est l'homme nouveau. Quand t'es rendu dans l'homme nouveau, tu vas vivre ça. Mais si tu vas encore charnellement, tu vivras pas ça, parce que tu vas encore selon ta chair. Faut que tu rejettes point par point qu'il va te montrer, faut que tu rejettes, tes tasses, tes abandonnes, puis que tu dises, c'est ça que je veux, fais-le en moi, Saint-Esprit, puis fais mourir mon corps, puis renouvelle-moi, donne-moi la force, puis donne-moi ce point-là. Quand tu vas agir comme ça, l'Esprit Saint va prendre le contrôle de chaque domaine de ta vie, à chaque fois qu'il te le montre, lui-même ou qu'il te le montre par quelqu'un d'autre, tu vas le comprendre, ton esprit est renouvelé, parce que tu comprends, puis là, il veut le produire en toi, mais il attend que tu y dises, fallait. Rejette, faut que tu dises, là, je veux plus de celle-là, de cette vieille manière-là, puis je veux la nouvelle. Vous n'avez plus à vivre selon votre chair. Les émotions de votre chair, les craintes de votre chair, les désirs de votre chair, les faiblesses de votre chair. Vous n'avez plus à vivre dans cela. Moi, je vais vous dire quelques caractéristiques d'un homme mature qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Premièrement, dans Matthieu 13, ça nous dit que celui qui est mature, là, il comprend son plan à Dieu. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend, puis il porte du fruit. Un grain en donne cinq, là. Quelqu'un de mature spirituellement qui marche par l'Esprit de Dieu, c'est quelqu'un qui comprend le plan de Dieu et qui vit dedans. Parce que cette personne-là qui est mature va aussi avoir la pensée de Christ. Parce que dans 1 Corinthiens 2,16, ça nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Quand tu es rendu mature spirituellement, tu commences à apprendre à vivre dans l'Esprit, selon l'Esprit, tu commences aussi à voir les pensées de l'Esprit. Dieu, il commence par te le dire, puis là tu le vis, là tu comprends le processus, puis t'embarques dans un chemin qui est de marcher par l'Esprit ou marcher avec l'Esprit. Quelqu'un de spirituel qui est mature, c'est un homme qui est capable de juger de tout. Dans 1 Corinthiens 2,15, il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Puis lui est lui-même jugé par personne. Juge de tout, c'est quelqu'un qui est capable de discerner. Quand t'es mature spirituellement, ton intelligence va être renouvelée et tu vas être capable de juger les situations, de discerner ce qui est de Dieu. Tu vas être capable de sonder des choses pour apprendre, pour fouiller. Puis l'Esprit de Dieu va te révéler des choses. La maturité, selon l'Esprit, va t'amener à ça. À être capable de discerner dans ta vie quelle décision tu dois prendre dans telle et telle situation. Quelqu'un qui est en Jésus, qui est mature, qui vit par l'Esprit, Philippiens 2,5, ça nous dit qu'il va avoir les sentiments qui est en Jésus. Ça nous dit, Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. » Il est en train de les exhorter, de les avoir. Donc, c'est possible d'avoir les sentiments qui est en Jésus. Mais tu ne peux pas vivre les sentiments qui est en Jésus par ta chair. Si tu veux vivre selon les sentiments qui est en Jésus, il faut que tu vives par l'Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin. Puis quelqu'un de mature spirituellement va vivre dans ce chemin-là continuellement. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il va manifester la vie de l'Esprit dans sa vie. Il va avoir le fruit de l'Esprit qui va se manifester dans sa vie. C'est quoi ce fruit-là? Dans Galates 5,22, ça nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit... c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénie, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit, il va vivre, va manifester le fruit de l'Esprit. Quelqu'un qui marche par l'Esprit, ça va être quelqu'un qui apprend, qui est capable de se soumettre à la volonté de Dieu. Jacques 4,7, ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu, puis résistez au diable, puis il fuira loin de vous. » Ça veut dire, s'il nous demande encore de se soumettre à Dieu, c'est parce que c'est possible d'être capable de se soumettre à Dieu. Marche par le Saint-Esprit, tu vas avoir la force d'arriver à cela. Quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit, qui est rendu mature, il va avoir en lui une puissance. Philippiens 4,13, il dit « Je puis tout. » par celui qui me fortifie. C'est qui fortifie à Paul? C'était le Saint-Esprit, c'était la nouvelle nature. Quand on se dit, « Ah, oh, moi, je suis pas capable », c'est parce que tu marches dans ta chair. Si tu apprends à marcher par l'Esprit, l'Esprit est capable de produire en toi ce que tu n'es pas capable de faire. Il est capable de t'amener dans une situation que tu n'auras jamais pensé de te rendre là. Parce que c'est sa force, sa vigueur, son énergie, sa pensée, ses élans, c'est lui qui produit en nous le vouloir et l'affaire. Mais il faut que, premièrement, qu'on dise oui, puis il va le faire. Celui qui vit mature spirituellement, il va manifester des dons spirituels. Parce que dans 1 Corinthiens 7, ça parle à l'église de Corinthe, il dit « De sorte qu'il vous manque aucun don dans l'attente de ce que vous êtes de la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. » Dieu a des dons miraculeux qui sont là à notre disposition, qui sont promis, que Jésus a manifestés, les disciples l'ont manifesté, puis il y a plein de promesses qui nous disent que nous aussi on peut le manifester. Que ce soit des prophéties, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, le discernement des esprits, les dons de guérison ou les dons de miracles. C'est des choses qui viennent du Saint-Esprit, ça ne vient pas de l'humain. Si on marche dans la chair, mais si on est à l'écoute de la voix de l'Esprit, Puis on se laisse diriger, puis on se laisse conduire. Dieu veut qu'on possède les dons. Il nous dit aspirez aux dons les meilleurs. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut les communiquer à chacun d'entre vous. Peut-être pas tous le même don. Ou peut-être vous avez reçu le même don, mais il ne se manifestera pas de la même façon. Mais il y a des choses qui vont se passer dans votre vie que vous allez manifester. La présence de l'Esprit va se manifester en donnant des révélations, des choses cachées, en passant à travers vous pour toucher quelqu'un, pour le guérir ou pour le délivrer, ou pour y communiquer une parole qui va le bénir. Quelqu'un qui est mature spirituellement, parce qu'après écouter la voix de l'Esprit puis qui marche par l'Esprit, il va devenir à l'image de son maître. Dans Luc 6, 40, il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » On disait tout à l'heure que les gens recherchaient à être comme Dieu. Dans notre chair, on n'a rien à plaire à Dieu. Mais ça nous dit qu'il y avait un Jésus qui était à l'image du Dieu invisible. Ça dit « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Vous voulez être à l'image de Dieu. C'est juste le Saint-Esprit qui peut le produire en vous. On doit chérir cette grâce-là qui nous est accordée, puis il faut prendre soin de ce don, le don du Saint-Esprit. C'est quelque chose de précieux. Où un des premiers passages, j'ai dit, Dieu nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par cette promesse-là, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Ça nous dit ailleurs, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Cet esprit-là, là, il n'y a pas de chose plus grande dans tout l'univers, plus grand que le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même, c'est un Dieu saint, un Dieu trois fois saint, que la Bible nous dit. Il habite en nous. On ne doit pas prendre ça à la légère. Il est là, puis il veut se manifester, puis il veut nous apprendre à marcher avec lui. Il veut faire mourir des choses dans notre vie, puis il va en produire des choses. On doit lui laisser toute la place. On doit lui laisser faire l'œuvre en nous. Si on ne le fait pas, on va se revoir dans 10 ans, puis vous allez être encore au même niveau où vous êtes spirituellement. Puis il faut faire attention, surtout, à ne pas l'attrister. Parce que ce n'est pas juste une force, c'est une personne. Tout ce qu'on pense, il l'entend. Tout ce qu'on dit, il l'entend. Tout ce qu'on fait, il est là. Même les choses pas bonnes, il le voit. Les choses pas belles, les choses honteuses, il est là. C'est quelque chose de grave, là. On a la nature de Dieu en nous. Puis des fois, on met ça sur les tablettes, on vit tout croche, on vit dans des affaires honteuses. On attriste le Saint-Esprit que la Bible dit. On le rend triste. Des fois, on fuit le Saint-Esprit, puis on ne sait pas c'est quoi, puis c'est la tristesse de l'Esprit qui est en nous pour nous amener à se repentir, puis qu'on soit renouvelé, qu'on revienne à être rempli de nouveau. Je reviens à ma question de tout à l'heure. L'avez-vous reçu, le Saint-Esprit? Si tu veux recevoir cette nouvelle nature, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Parce qu'il faut premièrement que tu passes par être pardonné avant de recevoir le Saint-Esprit. Jésus, quand il parlait à ses disciples, première chose, Pierre, il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, puis en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La promesse est pour vous et pour tous les enfants qui sont ici, là, et pour tous les autres dehors. La promesse est pour tout le monde. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, mais premièrement, repentez-vous, puis mettez vos vies en règle devant Dieu, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Commencez à vous introduire dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit va venir dans vos vies, vous allez être changé, transformé, vous allez avoir la nature de Dieu en vous, vous allez avoir la puissance qui va changer vos vies, puis vous allez devenir des fils et des filles de Dieu, vous allez posséder la vie éternelle, puis vous allez avoir la force de faire tout ce que Dieu va vous mettre devant vous. Dieu désire donner son Saint-Esprit. Luc 11, 13, ça nous dit, « Si donc, méchants comme on est, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à combien de fortes raisons le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Demandez-le pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Demandez-le. Dieu veut le donner. Il veut que vous le receviez. Il veut que vous entendiez sa voix. Il veut faire mourir les actions de votre corps. Il veut vous enseigner, il veut vous diriger, il veut vous fortifier, puis il va rendre témoignage à votre esprit que vous appartenez à Dieu. Avec la nouvelle nature, vivre la vie de l'esprit, ça devient naturel. Ah, oh, moi, c'est naturel que je réagisse comme ça. Ben oui, ça, c'est parce que tu vis selon ta chair, mais quand tu vis en Jésus, puis que là, tu laisses la nouvelle nature prendre le contrôle, ça va devenir naturel de réagir selon l'esprit. Voulez-vous devenir semblable à lui? Voulez-vous faire partie de cette nouvelle race que Dieu a créée, la race des enfants de Dieu? Je fais un appel à ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Pendant que les musiciens s'avancent, moi je crois que le Seigneur veut faire une œuvre de salut. Le Seigneur veut distribuer son Saint-Esprit. Pour ceux qui l'ont déjà, vous n'avez pas besoin d'avancer en avant. Dans vos bancs, dites au Seigneur que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix, j'aimerais ça l'entendre, j'aimerais ça revenir dans une intimité, de marcher avec toi. Mais puis là, mettez vos vies en règle avec le Seigneur, et le Seigneur va commencer cette œuvre, va vous pardonner, va vous conduire dans le reste de votre vie. Mais ceux qui se disent, moi je n'ai jamais entendu la voix de l'Esprit, ou je l'ai entendu des fois, mais ça venait comme pour me dire quoi faire, mais j'ai pas encore fait le pas d'accepter Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai pas encore fait le pas de dire que je le croyais, que Jésus est mort sur la croix pour moi, pour pardonner mes péchés, puis que là, maintenant je l'accepte comme mon sauveur personnel, je le prends comme le maître de ma vie, puis je veux recevoir le don du Saint-Esprit, puis je veux que ma vie soit changée. S'il y a des gens ici qui sont dans cette position, je vous demande de vous avancer en avant, je vais prier avec vous, afin que la vie de l'Esprit commence en vous. Pendant que les musiciens m'ont commencé à chanter le chant, remettez-vous en question. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait être prêt que nos vies changent pour qu'ils soient changés. Si on entend la parole aujourd'hui, puis qu'on s'en va sans avoir changé de position devant Dieu, sans avoir pris la décision, vous allez oublier ce que vous avez entendu. Vous allez perdre l'option que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Vous allez sortir d'ici dans la même position que vous étiez avant de rentrer. Sans l'Esprit, sans la vie éternelle, sans possibilité qu'un jour votre vie puisse changer. Vous allez continuer à marcher dans votre chair. Puis vous avez pour fin de vie la perdition que la Bible a dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel? C'est pas grave qu'est-ce que les autres vont penser. C'est pas grave qu'est-ce que les autres vont dire de vous. Parce qu'ils l'ont tout fait. Ils ont tout déjà donné lui au Seigneur. Ils ont déjà pris position pour le Seigneur. Mais si vous ne l'avez pas pris, rachetez pas cette invitation. L'Esprit dit, aujourd'hui c'est le temps favorable, aujourd'hui c'est le jour du salut. La Bible nous dit, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Mais cependant que le Saint-Esprit parle dans vos cœurs, il vous le montre que c'est vrai, votre vie n'est pas en règle avec lui. Ça, c'est l'Esprit qui est en train de vous dire, viens. Et l'Épouse, c'est nous autres. Ceux qui prêchent la parole, ceux qui sont déjà dans le plan de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, vous dit aussi, viens. La Bible a dit que celui qui entend dise, viens. Amen, Seigneur. Vous voulez le recevoir? Avancez-vous en avant. Prenez position publiquement. Vous n'êtes pas gêné de prendre position pour le péché. Soyez pas gêné de prendre position devant Jésus. Jésus a dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie, tu es en train de le renier. C'est pas ça que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que tu rentres dans la vie éternelle. Alléluia. Au nom de Jésus, le Seigneur Tout-Puissant.